France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
350 tracteurs devant l'Assemblée nationale. Fumier et produits alimentaires déversés sur la voie publique. Depuis décembre, la colère agricole s'impose par des actions spectaculaires, déclenchées par l'abattage des vaches atteintes de la dermatose nodulaire, ravivées par l'opposition au Mercosur. Elle a déjà arraché des concessions jusqu'à l'annonce, cette semaine, d'une loi d'urgence par Sébastien Lecornu. Un consensus politique, largement citoyen, semble ainsi se dessiner autour du soutien aux agriculteurs et à leurs revendications. Pourtant, le paradoxe est frappant. Profession numériquement marginale dans une France majoritairement urbaine et chez des responsables politiques souvent peu formés aux enjeux agricoles, les agriculteurs occupent une place centrale dans le débat public. Alors, malgré le malaise paysan profond, la dureté de la vie pour beaucoup d'agriculteurs, les très très faibles revenus de certains, les suicides terribles de beaucoup, comment expliquer cette compassion, cette diligence, parfois cette indulgence? Pourquoi les agriculteurs ont-ils un poids politique, totem d'immunité ou héritage plus profond? Deux invités ce soir pour nous éclairer. Sylvain Brunier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS, membre du Centre de sociologie des organisations. Avec nous et à distance, Edouard Lynch, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à Lyon Lumière 2, spécialiste des zones rurales et du monde paysan français, directeur du laboratoire d'études rurales. Vous signez Insurrection paysanne, de la terre à la rue, usage de la violence au XXe siècle. C'est aux éditions L'Artilleur. Et merci à Ici Rhône-Alpes qui nous permet d'être en lien avec vous à distance.
J'imagine qu'il y a une négociation avec la coordination rurale pour dire, écoutez, quelques tracteurs peuvent entrer, mais à une stricte condition, pas de menace sur les lieux de pouvoir, un comportement, etc. Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'employer la force pour faire respecter l'ordre. Je pense d'ailleurs que l'autorité, précisément, consiste à ne pas la crier sur les toits, mais à la faire appliquer, pas nécessairement par la force. C'est ça d'ailleurs la vraie autorité. La vraie autorité, elle est calme, elle est tranquille, elle s'assume.
Le ministre, l'ancien ministre plutôt de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il s'exprimait dans la matinale de France Inter le 8 janvier dernier. Sylvain Brunier, ils peuvent paraître troublants, ces propos d'un ancien ministre de l'Intérieur qui a fait parfois usage de la violence policière à l'encontre de certains segments de la population. Cette fois-ci, c'est un discours différent lorsqu'il évoque les agriculteurs. Comment vous comprenez ce double discours ?
C'est assez paradoxal. Ce qu'on comprend, c'est que finalement, il ne fait qu'appliquer dans un discours comme ça, finalement, il ne fait qu'appliquer le droit. C'est-à-dire qu'effectivement, la police est censée protéger les mouvements sociaux, protéger les manifestations. Donc, pour une fois, c'est mis en application. Donc, c'est plutôt, mais effectivement, c'est intriguant par rapport à ce qui est le cas en général sur la plupart des, le traitement des mouvements sociaux se fait souvent par la répression. Donc là, on voit bien que l'agriculture, les agriculteurs font l'objet d'un traitement singulier, parce qu'il y a un coup politique qui est extrêmement fort à s'opposer à un mouvement agricole. Donc, il y a plein de raisons pour ça, j'imagine qu'on va en parler. Il y a un poids politique, un poids démographique, un poids symbolique extrêmement fort. Après, si on peut nuancer tout de suite, je pense que c'est intéressant quand même de tout de suite préciser qu'il y a quand même un traitement différencié des manifestations agricoles selon les organisations qui les portent. Et pas plus tard que là, dans les derniers jours, on en a bien vu l'illustration entre le traitement qui a été fait des manifestations de tracteurs organisées par la FNSEA en plein Paris et le traitement qui a été fait de l'occupation des locaux du ministère de l'Agriculture par les militants de la Confédération Paysanne qui ont tous fini en garde à vue. Donc il y a vraiment aussi des traitements différenciés, c'est important aussi de le rappeler. Quand même.
Vous êtes d'accord, Edouard Lynch, il faut aussi remettre en cause l'idée selon laquelle il y aurait en apparence une forme d'indulgence, de clémence objective à l'égard des mouvements sociaux portés par les agriculteurs, et je parle de l'indulgence des responsables politiques.
Alors, je pense que historiquement, il y a une indulgence qui s'est construite à partir des années 1960, hein, dans un rapport privilégié avec la FNSEA, qui a co-construit des politiques agricoles et s'est construit une espèce de deal sur l'acceptation finalement de manifestations, y compris de manifestations illégales qui n'étaient pas réprimées. Donc il y a cette longue histoire qui aujourd'hui se perpétue et se renouvelle avec effectivement des formes d'indulgence et des traitements différenciés par rapport à d'autres manifestations. En revanche, Sylvain l'a très bien dit, on observe aussi clairement que cette indulgence, elle est parfois à double et ici à triple vitesse. Hein. Et je reprends cet exemple des tracteurs. Entre la manière dont on a interdit, mais finalement toléré les tracteurs de la coordination rurale, la manière dont on a autorisé, accepté les tracteurs de la FNSEA et la manière dont on a emprisonné les manifestations de la Confédération paysanne, même provisoirement, on voit très bien que le pouvoir politique et la police, enfin le ministère de l'Intérieur, cible ces manifestations en fonction de hiérarchie politique.
Indulgence en matière d'usage de la force, indulgence, c'est une question. Existe-t-elle cette indulgence en matière de politique publique ? Mardi dernier, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé une loi d'urgence agricole autour de plusieurs priorités : l'eau, la prédation, les moyens de production. Le Premier ministre a déclaré que ce texte serait inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres au mois de mars et serait ensuite examiné par le Parlement avant l'été. C'est donc un examen rapide qui est promis par le Premier ministre. Est-ce qu'on observe, Sylvain Brunier, là aussi, du point de vue des concessions qui pourraient être offertes par les responsables politiques, une forme de clémence, là aussi ?
Alors, de clémence, je ne sais pas, mais de rapidité de la réponse politique, c'est sûr. Donc c'est là aussi c'est intéressant, c'est de se dire qu'il y a aussi un empilement des lois, des réponses législatives qui sont apportées finalement à chaque nouvelle crise amène une nouvelle loi, on pourrait dire quasiment. Mais là où c'est assez paradoxal, c'est que cet empressement en fait à répondre aux demandes, aux manifestations agricoles, se traduit quand même par une inertie assez considérable en matière de politique structurelle. Donc il y a vraiment un paradoxe entre le fait...
Vous voulez dire qu'il y a peu de résultats effectifs, objectifs, qui serviraient les agriculteurs au sens large ?
Oui, dans le sens où en fait, ce qui concentre l'essentiel de l'attention aujourd'hui, c'est la question des normes environnementales et leur application. Là, en l'occurrence, de leur dérégulation. Mais par exemple, il y a quasiment pas ou très peu de réflexion sur la question vraiment des modèles productifs et des choses quand même qui sont hyper importantes, hyper structurelles, c'est-à-dire la manière dont on organise le travail, la manière dont on partage la terre, la manière dont on régule l'investissement, etc. Et donc, tous ces paramètres structurels, du moment qu'on les prend pas en compte dans les projets législatifs, on peut empiler comme ça à l'infini les projets de loi, mais les motifs d'insatisfaction, de colère, de mobilisation, ils demeurent.
Trois voix, celle d'Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, celle d'Aurélie Trouvé, députée de la France Insoumise, celle de Xavier Bertrand, enfin président de la région Hauts-de-France. Ils évoquent tous les trois, le sujet des agriculteurs.
On bouscule le calendrier parce qu'effectivement, il y a une forme d'urgence. La colère des agriculteurs, elle est profonde, leurs revendications sont légitimes et nous les entendons au plus haut niveau du gouvernement.
Nous sommes aux côtés des agriculteurs tout simplement parce que nous partageons leurs revendications contre le traité avec le Mercosur et c'est une catastrophe pour l'agriculture familiale. Une catastrophe.
L'agriculture, la nourriture comme la santé, c'est du domaine régalien. C'est la responsabilité de l'État. C'est ce que l'on met dans nos assiettes, ce que l'on donne à manger à nos enfants. Alors c'est prioritaire. Il n'y a pas une décision que j'ai prise qui était contraire aux intérêts des agriculteurs dans la région. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de France sans nos paysans.
Y a-t-il, Edouard Lynch, une forme de consensus dans le spectre politique français au sujet du discours agricole, des politiques à mettre en œuvre en matière agricole et au-delà sur la situation réelle vécue par les paysans français ?
Alors d'abord, il y a un consensus très clair sur l'usage politique du soutien à l'agriculture. Voilà, tout le monde veut se présenter comme le chevalier blanc qui va sauver l'agriculture. On pourra revenir pour essayer de le comprendre. En revanche, il n'y a pas du tout de consensus parce que derrière les mots, la France insoumise ou les écologistes n'ont absolument pas les mêmes réponses à la crise agricole que la FNSEA et a fortiori la coordination rurale. Donc je pense que là, on est dans un espèce de tourment médiatique. Effectivement, on empile, on promet des lois dont on ne sait même pas si une majorité sera capable de les voter pour essayer de sortir d'une crise dont le gouvernement a du mal à se dépêtrer parce que traditionnellement, le dialogue avec un syndicat majoritaire permettait d'un coup de pression de la FNSEA et des éléments de réponse. Et tout rentrait dans l'ordre. Aujourd'hui, depuis 2 ans, on est dans un système concurrentiel et notamment de la coordination rurale. Et donc, il y a une course à l'échalote entre les deux et personne ne veut baisser la tête le premier. Et je pense que l'empressement du gouvernement à promettre des tas de réformes dont, effectivement, on ne sait pas très bien comment elles vont être construites et appliquées, l'illustre très bien.
Il peut paraître surprenant ce consensus apparent en matière d'agriculture, Sylvain Brunier, lorsqu'on regarde notamment le poids numérique des agriculteurs en France en comparaison du poids politique qu'ils semblent représenter. Trois chiffres, hein, les agriculteurs étaient près de 14 millions il y a un siècle, 10 fois moins en 1970, 400 000 aujourd'hui. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe apparent, encore une fois?
Alors, il y a plein de raisons, mais déjà, cette question démographique, elle n'est pas évacuée non, trop vite non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 380 000 chefs d'exploitation en activité aujourd'hui, mais en réalité, il y a aussi tout un tas de gens qui étaient chefs d'exploitation, qui sont à la retraite et qui continuent de voter. Ces chefs d'exploitation, qui étaient souvent des hommes, mais pas que, ils avaient aussi des conjointes, qui continuent de voter également. Et en fait, si on empile tout ça, ça fait qu'il y a quand même un vote agricole qui, démographiquement, est non nul. Il y a quand même une clientèle.
Ils ont chacun une famille, des proches, des relations, etc. Tout ça, et il faut l'intégrer.
Exactement. Et en plus, donc c'était une des caractéristiques, c'est ce qu'Edouard Lynch a commencé aussi à dire, c'est qu'une caractéristique de cette clientèle électorale, c'est qu'elle était extrêmement stable, extrêmement fidèle dans le temps. Elle votait beaucoup au centre, plutôt à droite, un peu au centre-gauche. Et tout ça était très stable depuis plusieurs dizaines d'années. Et un des bouleversements récents qui a moins de 10 ans et qui là s'est considérablement accéléré ces deux dernières années, c'est effectivement une fragmentation de l'offre syndicale, mais aussi du coup des positionnements politiques des agriculteurs tels qu'ils ressortent dans les quelques enquêtes d'opinion que les collègues mènent. Et donc il y a une vraie concurrence pour capter cet électorat entre le Rassemblement National et la droite de gouvernement plus classique, on va dire. Et donc ça conduit vraiment aussi à une forme de surenchère dans les propositions et dans les rapidités des propositions, mais encore une fois, sans envisager de bouleversement profond des modèles productifs.
Est-ce que ce consensus de façade, Edouard Lynch, peut être lié à l'idée que les femmes et les hommes d'État français se font peut-être aussi de leur propre mission selon laquelle l'État centralisateur doit garantir la fonction nourricière, il doit permettre une forme de sécurité alimentaire, il doit permettre à chacun sur le territoire national de se nourrir.
Disons que ça a été un leitmotiv de la mise en place des politiques agricoles modernisatrices dans les années 60, où on sortait effectivement de périodes de pénurie intense et de difficultés. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore tout à fait le cas, et la thématique de la souveraineté a vraiment ressurgi depuis quelques années, quelques mois, et elle permet en fait finalement de masquer ou de dissimuler d'autres réalités de l'agriculture. Et notamment, quand on parlait tout à l'heure du poids de l'agriculture bien au-delà du nombre effectif d'agriculteurs, il faut comprendre que l'agriculture, c'est aussi un modèle industriel avec des entreprises qui pèsent très lourd dans les exportations, qui sont de véritables complexes agro-industriels, et eux, qui n'ont pas de problème de fin de mois comme les agriculteurs, eux, ils ne se suicident pas, et pourtant, et eux, évidemment, il faut défendre leurs intérêts. Donc là aussi, on a un petit peu quand même le sentiment que cette question de la terre nourricière et de la souveraineté alimentaire est un peu de la poudre aux yeux, même si elle pose effectivement une vraie question. Dans un monde mondialisé, il est important pour les États de contrôler leur souveraineté alimentaire. Mais on n'est pas sûr que les réponses proposées y répondent totalement.
Il faut par ailleurs peut-être aussi parler de l'imaginaire français, donc de l'imaginaire de certains responsables politiques, Sylvain Brunier, à l'égard des paysans, liés à l'idée peut-être d'un ancrage, d'un enracinement, d'un rapport à la terre également.
Oui, cet imaginaire, il existe, mais c'est vrai qu'il y a une projection sur l'agriculture, sur l'agriculteur, de tout un tas de valeurs qui sont liés à la transmission patrimoniale, à la famille, à la stabilité, etc., qui sont des valeurs de droite, en fait, défendues par la droite politique.
Mais des valeurs partagées par beaucoup de Français également.
Tout à fait. Et ça, il y a une forme de projection, en fait, depuis l'extérieur sur cette catégorie, d'une forme d'idéal qui correspond aussi à une sorte de menace, quoi, c'est-à-dire un monde qui pourrait être en déclin, un monde perdu, etc. Donc on voit bien aujourd'hui, on peut assez facilement du coup instrumentaliser cette image, un peu cette image d'épinal de l'agriculture, pour servir tout un tas de discours conservateurs finalement. Donc ce mécanisme, il est très opérant actuellement.
En complément, Edouard Lynch, dire un mot également pour expliquer ce poids politique des agriculteurs agriculteurs. Un mot de la co-gestion de cette proximité depuis les années 60, au moins entre le premier syndicat agricole français, la FNSEA, et l'État. Cette proximité complexe par ailleurs, mais qui permet peut-être aussi de mieux comprendre ce poids politique des paysans, des agriculteurs, encore une fois, dans leur extrême diversité.
Oui, c'est une évidence. Hein. C'est un modèle, on l'évoquait tout à l'heure, hein, qui a permis la co-construction hein, de la politique de modernisation avec l'installation des représentants du syndicalisme agricole majoritaire dans les instances décisionnelles de l'État, hein, jusqu'au sommet de l'État, les fameuses conférences agricoles hein, qui se tiennent tous les ans à partir de 1971. Il faut pas oublier qu'un certain nombre de responsables la FNSEA ont été ministres hein, dans les gouvernements de droite, que ce soit le gouvernement Barre ou que ce soit en 86 au moment de la cohabitation. Donc il y a une vraie porosité, des vraies relations politiques hein, et idéologiques qui ont longtemps assuré voilà, une forme de coexistence alors pacifique, teintée de manifestations, de rappels, de petites piqûres de rappel ou pour exercer un petit coup de pression. Comme le disait tout à fait très bien Sylvain tout à l'heure, cet écosystème à la fois politique et syndical, il est en train de se recomposer et on le sait, les historiens les spécialistes des mobilisations sociales le montrent bien, dans les périodes de tensions, de rivalité entre organisations, bah les manifestations, les tensions s'accroissent.
Je continue avec vous, Edouard Lynch. J'ai souvenir d'une émission il y a quelques semaines. Vous nous aviez expliqué que par ailleurs, le monde agricole, sa capacité à se mobiliser, sa capacité aussi à s'organiser politiquement, lui permettait de se faire entendre car il était capable aussi de profiter d'une forme de capacité de nuisance logistique. Et vous donniez l'exemple de quelques tracteurs qui suffisaient parfois à bloquer des routes, des voies, des entrées dans des grandes villes.
Oui, tout à fait. Hein. C'est un répertoire qui s'est progressivement renforcé et établi hein, et qui démontre aujourd'hui son efficacité. Il n'y a pas plus besoin d'avoir 1 million ou 3 millions d'agriculteurs pour perturber la circulation. Et donc, ce système fonctionne assez bien. Après, une fois encore, il fonctionne aussi parce que l'État accepte de laisser ses tracteurs bloquer les routes, bloquer les autoroutes. C'est une décision, là encore, politique hein, de s'y opposer ou de ne pas s'y opposer. On l'avait vu d'ailleurs il y a l'année dernière, je crois, je commence à confondre aussi les manifestations, au moment où la coordination rurale avait tenté son premier blocus, enfin son premier, c'était pas le premier, mais de Paris, et il y avait une réaction très ferme, assez ferme, hein, et les tracteurs avaient été bloqués. Donc on sait bien hein, que voilà, c'est aussi une décision politique. Hein.
On parle par ailleurs, Sylvain Brunier, depuis le début de cette conversation de politique, mais de politique nationale uniquement. Or, le poids des agriculteurs, le poids politique des agriculteurs s'exerce également en matière de politique locale. Leur poids évident, évidemment complet, même dans les chambres agricoles, certes, mais également au niveau des communes, au niveau des intercommunalités. Leur poids agricole est là un peu plus surreprésenté.
Historiquement, les agriculteurs étaient surreprésentés parmi les élus locaux, dans les conseils municipaux, les conseils généraux. C'est de moins en moins vrai, mais ça reste vrai. Mmh. Après, ce qui est, je pense qu'il faut aussi dire, c'est qu'ils sont aussi, ils ont d'autant plus de poids à l'échelle locale que on a toujours l'image aussi, voilà, des exploitations familiales, des agriculteurs indépendants. Mais si le nombre d'exploitations, il a fortement baissé, il continue de baisser, la quantité de travail dans l'exploitation, elle n'a pas tant baissé que ça. Ça veut dire qu'en fait, ces fermes, elles reposent aussi sur par exemple le travail salarié. Et de fait, ces agriculteurs sont souvent aussi des patrons. C'est-à-dire qu'à l'échelle, alors c'est peut-être plus ou moins une grosse exploitation, mais ils ont aussi cette fonction d'employeur. Et du coup, ils ont aussi ce poids politique à l'échelle locale qui est voilà, qui vient aussi de cette fonction. Et je reviens sur ce qu'a dit Edouard tout à l'heure, parce que ça me paraît vraiment très intéressant, c'est de dire que bien rappeler qu'en fait ces manifestations là, on parle beaucoup des agriculteurs, mais c'est vrai que c'est quand même toujours intéressant de parler du secteur agricole dans son ensemble. Et s'il a autant de poids politique, c'est parce qu'il a un poids économique. Et effectivement, si on se sort un peu de cette idée là de comment 350 000, 380 000 chefs d'exploitation arrivent à avoir autant de place, et qu'on pense en termes de filières, de production, de distribution, de transformation, de système agroalimentaire français, là, d'un seul coup, on comprend qu'effectivement, il y a des enjeux stratégiques qui sont assez énormes. Et en fait, c'est plutôt là, ce qui est intéressant, c'est la capacité de toutes ces organisations à parler d'une voix ou à parler pour les agriculteurs, qui doit vraiment être prise en compte, quoi.
Par ailleurs, Edouard Lynch, lorsque les responsables politiques évoquent, mobilisent cette notion de paysan, de quel paysan concrètement parle-t-il ? S'agit-il du dirigeant d'exploitation ou bien plutôt très largement d'une autre idée du petit paysan, souvent qui est bien éloigné de la réalité aussi de la structure économique du secteur ?
Oui, tout à fait. Hein, c'est exactement ça. Hein, c'est-à-dire que c'est mettre en avant, consciemment ou inconsciemment, ce qui renvoie à l'image, j'allais dire, romantique et idyllique du petit paysan polyculteur dans sa ferme, proche de la nature, de ses animaux, hein, et qui se lève tôt le matin. Voilà. Et derrière, c'est une forme de réalité, mais c'est une réalité qui n'est absolument que partielle et qui permet effectivement de mobiliser, j'allais dire, un pathos, hein, qui mobilise aussi des références de représentation très positives, hein, du rapport à la terre, du rapport au travail, voilà, du rapport à la nature, qui ne correspond évidemment pas à bien d'autres aspects de l'agriculture agro-industrielle. Donc on est bien aussi dans des formes de mobilisation d'images qui permettent de faire passer un message plus fort. Et ça a toujours été la stratégie de la FNSEA, hein, si je puis dire, et des mouvements agricoles, c'est-à-dire de mettre les petits dans la rue, et j'allais dire pour que les gros en profitent. C'est un petit peu caricatural, je m'en excuse, mais il y a quand même un petit peu de ça.
Des Français qui parlent eux-mêmes de leur représentation, de leur imaginaire agricole.
Ils nous nourrissent, ils sont tellement courageux, ils défendent notre liberté face à cette dictature de Bruxelles.
Ils nous font vivre, hein. Ils nous font manger, hein. Donc c'est important, très important.
Quand on fait des choses gentiment, ça marche jamais. Alors, au bout d'un moment, quand on est trop en colère, ben voilà. Pour montrer sa colère.
Il faudrait que tout le monde s'entende en tout cas et prenne conscience de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde agricole qui est quand même extrêmement dramatique. Et on ne pourra toujours que remercier ces hommes et ces femmes qui nourrissent la population, qui font que les terroirs existent, que les beaux produits existent. Ils sont bien, ils sont tous là. Ils ont envie de se battre aussi et c'est bien normal. Parce que c'est pour nous tous qui se battent aussi aujourd'hui.
Vous avez peut-être reconnu la voix de ce Français lambda, le chef cuisinier Philippe Etchebest, à la fin de ce match. Sylvain Brunier, un mot quand même sur le rapport de l'opinion publique aux agriculteurs. Beaucoup de sondages montrent un soutien important, parfois fervent selon les études. Lorsque l'on creuse, est-ce que là aussi, dans l'opinion, il existe un consensus sur ce que représente au sens large le monde agricole français ?
Un consensus, c'est dur à dire, mais effectivement, il y a quand même une image positive de l'agriculture et des agriculteurs pour un certain nombre de raisons qui ont été évoquées rapidement. Mais effectivement, bon, ce rapport à un nourricier, voilà. Mais il y a aussi quelque chose d'un peu plus profond sur cette espèce de rapport un peu sacrificiel aussi au travail. Cette idée que les agriculteurs sacrifieraient, en fait, leur confort, leur mode de vie pour nourrir la population. Et quand on voit les conditions réelles de travail d'un certain nombre d'agriculteurs, c'est pas complètement faux. Donc il y a une forme de remerciement, de fascination, d'intérêt. Enfin, c'est difficile à caractériser, mais ce qui nous intéressait avec mes collègues aussi, dans nos enquêtes de sociologues, c'était aussi de montrer que ce rapport de l'opinion positif, il n'était pas juste, il tombait pas du ciel aussi. C'est-à-dire qu'il a fait aussi l'objet d'investissements considérables de la part d'organisations agricole, professionnel, syndical, mais aussi d'organisations économiques, des grandes coopératives, des industries, d'aval, d'amont, etc. Et qui ont, sur les 15-20 dernières années, ont vraiment pris en main l'idée qu'on pouvait construire, qu'on devait construire un discours de communication positive, ils l'ont même théorisé, autour de l'agriculture pour convaincre l'opinion publique. Ça, c'est un déplacement assez majeur parce que, effectivement, toute l'histoire des politiques de modernisation, elle est caractérisée par une espèce de dialogue entre le syndicat principal, la FNSEA, et l'État. Aujourd'hui, ce dialogue continue d'exister, voilà. Mais cette question de la conquête de l'opinion publique, elle est devenue très très centrale. Et donc toutes les organisations qu'on portait en fait ce discours un peu de défense du productivisme, elles l'ont fait dans un contexte où elles avaient l'impression de perdre la main, c'est-à-dire de perdre la main face à ce qu'elles caractérisent comme une montée en puissance de la critique environnementale, que ce soit sur les pesticides, sur le bien-être animal, sur le réchauffement climatique. Et du coup, il y a eu un investissement, une organisation sur les réseaux sociaux numériques, dans l'espace médiatique. médiatique plus généralement, pour investir ces espaces et imposer un discours, une forme de discours de défense très unanime et aussi très très peu politique finalement des questions agricoles et de cette idée qu'il faudrait défendre l'agriculture. C'est pour ça qu'on a parlé aussi de, dans notre travail, on parle un peu de moralisation, c'est-à-dire que d'une question un peu économique, technique, etc., on passe à une question très lourde, très chargée de est-ce qu'on est pour ou contre, est-ce qu'on est en défense de l'agriculture ou est-ce qu'on attaque l'agriculture. Et effectivement, c'est une manière assez... C'est curieux de poser les débats, quoi.
Edouard Lynch, par ailleurs, est-ce que l'opinion publique au sens large perçoit la complexité du monde agricole, la différence de statut, de niveau de vie, de rapport à l'avenir également entre les différents types d'exploitation, ou bien le monde agricole, c'est d'abord et avant tout un monobloc, pour le coup, idéalisé par l'opinion publique française ?
Je pense que effectivement, je suis très très attentif effectivement à ce qu'a dit Sylvain, et il le dit très bien. Il y a un processus effectivement de prise en main et de communication, de construction d'un certain type d'image et d'une image positive. Et par rapport à la question que vous me posez, ça correspond aussi au fait que les médias, me semble-t-il, participent pleinement à la présentation de ce stéréotype. Y compris sans doute dans la manière dont les extraits que vous avez rendu compte. Évidemment, on va poser aux gens des questions auxquelles ils vont répondre, parce qu'il est difficile de dire qu'on n'a pas envie d'avoir un paysan nourricier. Mais alors là aussi, je suis peut-être un petit peu excessif, mais il me semble que quand les cheminots font grève, voilà, on va voir les usagers, on leur demande, bah oui, vous pouvez pas prendre votre train, donc vraiment les cheminots, ils sont vraiment pénibles. Donc il y a quand même un travail aussi de fabrication de l'opinion, porté par la profession et en partie relayé par les médias, qui vont, à mon avis, systématiquement interroger ce stéréotype du petit paysan nourricier, et pas nécessairement ce que vous disiez, les autres acteurs de cette économie agricole qu'on ne voit jamais, finalement, que ce soit les salariés agricoles, victimes aussi de formes d'exploitation, de formes de tension, ou les grands groupes agro-industriels, là aussi, qui sont dans une toute autre logique. Et c'est moins l'opinion. Je pense que voilà, il y a moins une opinion forgée qu'une fabrique de l'opinion, qui est un enjeu, notamment pour la filière.
Un mot sur ce qu'on appelle l'agribashing. En 2019, le ministère de l'Intérieur a annoncé la création d'une cellule de gendarmerie baptisée Déméter et destinée, je cite, à lutter contre l'agribashing et les intrusions dans les exploitations. Cette idée de l'agribashing, Sylvain Brunier, qu'est-ce qu'elle révèle aussi des rapports peut-être là aussi instrumentalisés entre l'opinion publique et, au sens très large encore une fois, le monde agricole français ?
C'est vrai que quand on fait l'histoire de ce terme, ça résume pas mal des points qu'on a évoqués ce soir. C'est-à-dire que ce terme, donc c'est un hashtag sur les réseaux sociaux, donc anciennement Twitter, qui a beaucoup circulé à partir du milieu des années 2010, et qui a surtout circulé à partir du moment où il a été repris par des grandes organisations comme la FNSEA lors de sa campagne pour les chambres d'agriculture.
Voilà, il faut dire qu'il mobilise. C'est effectivement d'abord les agriculteurs, mais surtout les grands syndicats agricoles.
La FNSEA en particulier. Ça a été repris ensuite par la coordination rurale et ça a été repris directement par le ministère de l'Agriculture, toujours avec ce processus de... On répond directement à la colère. Et alors, ce qui était très, donc, c'est le mandat de ces cellules Déméter, là, qui était très contesté, parce qu'en fait, il agrégeait des choses extrêmement diverses. Il agrégeait du vol de matériel et quasiment du délit d'opinion, en fait. C'est-à-dire que le délit de dénigrement de l'agriculture. Donc, c'était aussi un cadrage très singulier. Et ce qui nous a intéressé, c'est que ce terme, il créait même une sorte de malaise à l'intérieur des organisations professionnelles agricoles. Parce qu'en fait, tous les acteurs agricoles sont pas forcément enclins à se reconnaître dedans. Et notamment, il y a cette idée que pour ceux qui sont les plus en pointe sur justement la communication positive, la réussite économique, finalement, endosser ce terme qui revient quand même à se plaindre d'un dénigrement injuste, c'est pas très très positif justement. Donc, ça nous intéressait de voir un peu quelles étaient les fractions du monde agricole qui l'avaient porté d'abord de manière unanime, puis ensuite qui en contestaient la validité. Et finalement, d'ailleurs, c'était assez intéressant de suivre le destin finalement de ce mot-clé sur les réseaux sociaux, qui a ensuite, par exemple, été abandonné assez rapidement par ses promoteurs parce qu'il était jugé quasiment contre-productif. Et là, il est ressurgi dans l'espace public parce que maintenant, il est beaucoup plus endossé par la coordination rurale et ses soutiens. Donc, voilà, c'est un bon traceur.
Et sur Déméter, alors sur cette fameuse cellule de gendarmerie qu'on a évoquée, est-ce qu'elle a obtenu, si je puis dire, des résultats ?
Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un rapport l'année dernière qui montrait qu'ils avaient une activité qui était quasiment nulle. Alors, je crois qu'il y a des moyens en plus. Donc là, c'est typiquement un effet d'annonce aussi qui a été fait sur ce type de politique. C'est-à-dire que les moyens qui étaient associés étaient très faibles. Donc, à ma connaissance, ça a pas donné grand-chose. Si ce n'est que ça a mobilisé beaucoup d'énergie, d'attention. Ça a contribué aussi à la polarisation des oppositions entre les organisations qui ont une défense de l'environnement, notamment, qui se sentaient directement visées, et le monde agricole ou ces organisations, etc. Mais sinon, en termes d'effet direct, c'est difficile de penser que ça a eu un effet.
Édouard Lynch, ce poids politique que l'on saisit mieux grâce à vous deux, qu'est-ce qu'il permet du point de vue, cette fois-ci, des politiques agricoles? Alors, on a compris que ces politiques agricoles étaient parfois embrouillées, qu'une cohérence était compliquée à dessiner, que des résultats étaient parfois aussi, j'allais dire qu'ils mettaient du temps à être obtenus. Mais malgré tout, est-ce que ce poids politique des agriculteurs leur permet tout de même d'avoir quelques avantages là sur le plan des politiques publiques?
Ça dépend de quel point de vue on se place. C'est sûr que si on se place du point de vue de la dérégulation environnementale, la FNSEA et une partie des organisations agricoles ont obtenu un certain nombre de résultats, et on peut craindre que, ou en tout cas observer que ça risque de s'accroître. En revanche, si on parle par exemple à une question qui a beaucoup mobilisé il y a 2-3 ans au moment de la première série de mobilisations, qui était la question de la répartition de la richesse autour des lois Egalim, eh bien voilà un exemple de politique dont plus personne ne veut entendre parler, alors que elle est pourtant essentielle en matière de progrès et en matière de revenus agricoles. Donc voilà, c'est en fonction des rapports de force au sein du syndicalisme agricole et de qui occupe aussi les positions gouvernementales, les rapports de force avec l'Europe aussi, les politiques vont prendre des différences, enfin des chemins, donc parfois elles aboutissent, mais elles aboutissent pas forcément pour le profit de tous les agriculteurs.
Sylvain Brunier, sur ces résultats de politique publique, comment vous les... Vous les analysez vous-même?
Il y a cette idée qu'effectivement que l'anti-environnementalisme ou la dérégulation des normes environnementales est devenue une espèce de plus petit dénominateur commun. Donc c'est ce qui est systématiquement poussé en avant par les pouvoirs publics et les organisations syndicales majoritaires. Mais effectivement, ça se fait au prix, comme on l'a dit au début, là, d'une réflexion plus large sur le type d'orientation qu'on veut pour les modèles productifs. Et là, si je peux juste illustrer ça rapidement, mais nous on a fait une enquête, par exemple, très récemment dans un lycée professionnel agricole. Et c'est assez frappant de voir comment des jeunes élèves en bac pro, sont très réceptifs, du coup, à ces discours qui sont dans l'air anti-environnementalistes, si on peut les qualifier comme ça. Et en même temps, sont complètement pris comme on pourrait dire, sous le joug de forces vraiment très, très puissantes de reproduction sociale. Il y a une forme de... Il y en a plein qui rêvent de s'installer, et en même temps, ils sont tous très conscients des difficultés qui les attendent, des difficultés structurelles qui sont énormes. Tout ça est très intéressant et assez déprimant en même temps, parce qu'on voit qu'en termes d'horizon politique, il y a peu de choses très séduisantes qui se dessinent pour eux, quoi.
Merci beaucoup à tous les deux de ces explications complètes. Sylvain Brunier, sociologue, Édouard Lynch, historien. Et merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Diane de Vancey, Stéphanie Villeneuve, Antoine Héral, Mathias Mégy. À suivre après le journal, on fête un anniversaire, un quart de siècle pour Wikipédia à travers une question. Comment est-il possible de construire ou de tenter de construire un savoir neutre ?